À bout de souffle. Une émission sur la littérature. Nous vous proposons d'écouter une rencontre avec Linda Lay, qui vient de publier In Memoriam chez Christian Bourgois. Elle a entre autres publié chez le même éditeur Calomnie, Le complexe de Caliban, Les évangiles du crime, Lettres mortes. La rencontre, animée par Laurent Évrard, a eu lieu à la librairie Le Livre, à Tours. Elle sera suivie d'une lecture d'un extrait d'In Memoriam par l'auteur.
Merci à vous tous d'être là ce soir pour accueillir Linda Lay. Je remercie aussi Christian et Dominique Bourgois qui ont permis que la rencontre soit possible, qui sont les éditeurs de Linda Lay et qui auraient pu être là ce soir. Je signale aussi à cette occasion l'extrême fidélité que peut avoir parfois un éditeur à son auteur et inversement l'auteur à son éditeur, et c'est assez rare quant à cette époque pour le souligner. Donc, nous avions déjà songé de nombreuses fois à inviter Linda Lay pour ceci. Premièrement, que de livre en livre, et c'est assez rare pour le souligner, se dessinait une œuvre. Nous lisions ces livres et nous commencions à nous dire « une œuvre là commence à exister ». Pure merveille. Œuvre que chacun de ceux-ci, de ses premiers livres à son dernier, In Memoriam, renforçait ou creusait. Œuvre singulière qui ne ressemble à aucune autre, ne ressemblant qu'à très peu, ou de très loin à ce qui se fait, n'étant que très peu soucieuse de ce que l'époque aurait voulu qu'elle soit, désobéissant par là même à ce qu'on aurait voulu la faire coïncider, n'obéissant qu'à elle-même, qu'à son propre mouvement, à la patience de son devenir, ne tirant sa légitimité que de ce qu'elle est, une œuvre de littérature. Et cela, quelle que soit la forme que puisse revêtir ce geste, roman, récit, nouvelle, essai. Ainsi donc, œuvre qui ne cède en rien à l'exigence de la littérature, au contraire, qui n'a de cesse de s'y confronter. Dans une étrange logique de comparution, tour à tour, défendeur, témoin ou accusé. Mais elle ne défend qu'elle-même, ne témoigne que d'elle-même, n'est accusée que de ce qu'elle est. Ou pire encore, ne défend plus que ce qui l'accuse, ne témoigne plus qu'à des charges, ne se confond plus qu'avec sa propre accusation. Jusqu'à ce que la littérature devienne elle-même une question, que c'est la question même de la littérature que finit par poser le livre de Linda Lay, pour finir par se confondre avec elle-même, et de la poser jusque dans ses dernières conséquences. Comme l'affirme le narrateur au commencement de In Memoriam, « Je serais devenu fou si je n'avais pas écrit ce livre. La folie me guettait cependant. À peine l'avais-je terminé que je le brûlais. Mener à bien l'œuvre de sa vie, la détruire, est-ce extravagant ou sensé ?» Oui, jusque dans ses dernières conséquences, jusqu'à sa destruction, jusqu'à faire que sa propre négation soit en même temps ce qu'il affirme le plus. Ainsi la mort de la vie, ainsi pourrait-on dire aussi de la mort de Sola, la figure aimée des deux frères, l'Antigone magnifique de In Memoriam, que cette mort est en même temps puissance d'affirmation, d'une affirmation qui n'en sépare pas. J'ai pourtant rencontré des êtres qui n'ont jamais dit à la vie tais-toi, et jamais à la mort va-t'en, presque toujours des femmes, de belles créatures, écrit Blanchot dans La folie du jour. Cela est une de ces créatures irréductibles jusqu'en la mort, jusque dans son intenable assentiment au monde, et continue à vivre à jamais séparée jusque dans les déchirures de la nuit. Elle est aussi celle qui n'écrit plus, qui n'a jamais écrit dans la langue du père, et qu'elle dut écrire ses livres dans un ailleurs de langue, dans un écart d'identité. Qu'elle sut pour cela que la littérature était sans consolation, que pour autant, elle ne voulut pas en être consolée. On ne sait jamais trop bien ce qui hante celui qui écrit, et celui qui écrit porte cette hantise sans pouvoir lui trouver d'issue. D'inviter Linda Lay pour ceci encore, qu'elle nous dit, que ses livres nous disent tout autant, que lire et écrire sont les deux versants d'une même activité, que lire et écrire sont inséparables, qu'il n'y a pas d'écrivain, idée banale, qui ne soit pas essentiellement un lecteur, que lire de la littérature ne compte pas moins pour celui qui lit que croire pour celui qui croit, et que la hauteur de sa croyance ne sera pas moins la hauteur de sa profanation. Celui qui écrit profane, qui profane connaît la honte, Qui n'a pas honte, n'écrit pas. Mon culte des livres s'est éveillé dans l'enfance avec ma fascination pour l'imprimé, écrit Lindalé. Non seulement d'emblée elle connut cette fascination pour les livres, pour l'imprimé, pour les lettres, mais en même temps on voulut l'en déposséder. Au Vietnam on interdit, puis on confisqua les livres. Il arrive aussi qu'on puisse les brûler. Il me semble entendre, au milieu des crépitements purificateurs, le sanglot d'un enfant qu'on a privé de son premier livre, nous dit Lindalé. Ce premier livre perdu engendrera peut-être chez lui le désir d'autres livres, la recherche d'autres voies continue-t-elle. Et il semble que Lindalé n'a eu de cesse de les chercher, non seulement de les chercher, mais de nous les faire entendre. Des voix proches ou lointaines, celles des vivants mais aussi celles des morts, plus vivantes que celles des vivants, celles de morts obscures ou celles de morts illustres. Et que traversant, faisant l'expérience, comme celle d'une inquiétude ou d'un danger, les livres de Lindalé, nous finissons nous-mêmes par entendre ses voix, le rire et les conversations des écrivains aimés. Il semble que la littérature soit désormais l'épreuve de l'amitié. Juste pour continuer cette courte présentation, vous lire un texte du complexe de Caliban. Un texte que je considère comme une espèce de nœud dans l'œuvre de Lindalé. Anamorphose de l'enfance. 1. Les visages. Le lépreux, assis sur une planche roulante, agitait ses moignons pour chasser les mouches de son erronier. La femme, debout, exhibait à la lumière le côté droit de son visage, une lourde poche rouge sang, comme une langue de bœuf boursouflée greffée sur la joue. Il mendiait à l'entrée d'un cinéma de Saïgon, le cinéma moderne. Tous les matins, il prenait place dans cette salle miteuse, et jusqu'à tard le soir, ils accueillaient les spectateurs par une mélopée discordante. Pour pénétrer dans la salle, il fallait franchir le cercle de feu, la porte de l'enfer tenue par le lépreux et la femme défigurée, qui se vengeaient de leur malheur en volant des enfants qu'ils allaient noyer à la sortie de la ville dans le fleuve noir de boue. J'avais 10 ans, mon père m'emmenait au cinéma moderne. Aller au cinéma, c'était aller voir le visage putride du lépreux et celui brûlé à l'acide de l'ancienne reine de beauté. 2 visages affichant la mort. 2 visages dont la monstruosité hypnotique me remplissait de l'effroi mêlé d'excitation, qui saisit John Mahoun à son réveil dans la taverne inconnue quand il découvre, penché sur lui, les faces goyesques des contrebandiers de Moonfleet. 2. Le passeur. Les films projetés au cinéma moderne n'ont laissé aucune trace dans ma mémoire. Ils n'étaient que l'enjeu d'une lutte engagée contre les gardiens de l'obscur. Pour entrer dans la salle, il fallait échapper aux lépreux et à la femme défigurée qui enlevait les enfants et les engloutissait avant qu'ils puissent franchir le seuil. Chronos et Médée défendaient l'accès à l'autre monde. Les enfants qui s'y présentaient étaient aussitôt dévorés. Mais le père était là qui servait de passeur vers le royaume de l'interdit. 3. L'ami. Le télégramme est arrivé de Saïgon un lundi matin. Il ne renferme qu'une phrase, la mort du père. La formule en vietnamien annonce la mort en suggérant simplement qu'un homme s'est égaré, a perdu ou n'a pas voulu retrouver le chemin du retour. Il s'est éloigné comme Jeremy Fox dans son esquif au voile rouge. Il reviendra. Si je prends le chemin du retour vers la ville de l'enfance, il reviendra puisqu'il est mon ami. 4. Le disciple. Je ne vais pas à Saïgon enterrer mon père. Je pars à la recherche d'un homme que je crois être mon ami. Je n'obéis pas à des sentiments filiaux. Je remplis les devoirs d'un disciple envers un maître. Je suis John Mahoun. Jeremy Fox habite la maison en ruine de mon enfance. 5. Le gredin. Je suis le disciple d'un gredin. L'homme qui habite la maison en ruine de mon enfance avait tout comme Jeremy Fox chez les Mahoun, toujours été tenu pour un gredin par le clan de sa femme. Il ne lâchait pas les chiens sur lui. Il lui jetait leur mépris à la face. Le clan avait lui aussi son Barberousse, le grand-père, qui vendit son honneur, non pour un diamant, mais pour de l'or, des médailles, des bijoux et des villas. Je fis alliance avec le gredin, le misérable, le déchu. C'était l'alliance de l'enfant avec celui qui répugna à entrer dans le monde adulte, où le partnership remplace l'amitié, où il n'est de choix qu'entre duper et être dupé. 6. Le gardien. Il aurait voulu vouer sa vie à la peinture, à l'art, mais à la manière de Jeremy Fox, l'aristocrate, qui scelle sa déchéance en devenant le chef des contrebandiers, il s'était fait le gardien d'une maison en ruine et d'ambition en friche. 7, le monument. Je vais donc à la recherche de mon enfance. Et ce voyage ne sera qu'une escroquerie supplémentaire couronnant l'escroquerie que constitue la mémoire de cette enfance. La vérité est que j'ai liquidé mon enfance, à la place j'ai élevé un monument qui s'appelle Moonfleet. C'est dans ce mausolée que depuis longtemps le père est enterré et que vit le gredin façonné par son disciple. Aller voir Moonfleet m'a toujours procuré la jouissance de voir mon enfance telle que je l'ai filoutée. Un monde sans père, puisque celui-ci tour à tour, le maître, le complice, l'ami, a démissionné de sa charge paternelle et par conséquent ouvert la voie à ma trahison, ma désertion. 8. Le trou. Le cinéma moderne existe toujours, mais le lépreux et la beauté brûlée à l'acide n'en sont plus les gardiens. Devant la salle qui projette en permanence une comédie américaine, le cercueil porté par des hommes en blanc passe lentement. Le cortège se dirige vers le cimetière où la tombe a été creusée au bord d'un étang. Jeremy Fox a quitté la maison en ruine de mon enfance. Il pousse dans l'eau l'esquif aux voiles rouges. Il s'éloigne sans se retourner. Il me laisse devant ce trou béant mon enfance. 9. Le bout d'essai. Le disciple avait abandonné à son maître la garde, non seulement de la maison en ruine, mais encore de l'enfance qui s'y était déroulée. Il revient à présent dans cette ville, dans cette maison, avec l'espoir d'entrer en possession de son enfance. Il se persuade qu'il va à la recherche d'un ami, que ce voyage sera une expérience profitable, que la mort du père n'est qu'un bout d'essai. Il avait pillé les images de Moonfleet. Il les avait déformées jusqu'à en faire les anamorphoses de son enfance. En revenant dans la maison en ruine, il veut entrer dans Moonfleet. Il veut entrer dans le film. Il réclame à l'enfance une renaissance et au père une reconnaissance. Il revient et il ne voit que le vide. La mort du maître ne lui restitue pas son enfance. À la place, il découvre un enclos dévasté. Le père n'a été que le gardien d'un enclos dévasté. 10. La lune. Je veille dans la maison en ruine à côté du cercueil. Je suis comme un voleur qui monte la garde près de son butin. La nuit brusquement égrène quelques notes de piano. Je me lève. Je vais faire les 100 pas dans la rue déserte éclairée par la pleine lune. La musique jouée en sourdine m'attire vers la maison d'en face. Un cri vite étouffé interrompt la sonate. Je me souviens d'avoir entendu dans mon enfance la même sonate ininterrompue. Dans la maison d'en face est enfermée une folle, une pianiste devenue folle. Ses gardiens l'empêchent de s'approcher du piano, mais la nuit elle réussit toujours à tromper leur surveillance pour aller frapper quelques notes au clavier. Et ce soir la folle a tenu à saluer la mort. 11. La voix. La folle, le mort et son disciple. La folle était devenue folle pour se punir de n'être pas allée au bout de son art. Le mort avait dès le départ trahi sa vocation, et en cette nuit de pleine lune, la folle et le mort disent aux disciples qui veillent près du cercueil que l'heure est venue de prendre la place du père. Comme le docteur Baum, qui après la mort du docteur Mabuse, va pieusement occuper le lit du défunt dans la cellule de fous. Comme John Mohun, l'orphelin, qui rouvre le manoir des Mohun en attendant le retour de Jeremy Fox. Le disciple doit conquérir non pas la maison en ruine de son enfance, mais la maison de la création que le père avait laissée vacante. 12. Seul. L'esquif aux voiles rouges s'est éloigné. Chronos et Médée ont englouti le père, le passeur. C'est seul désormais que le disciple doit se présenter devant les gardiens de l'interdit. Seul, il se débattra entre les mains de Médée. Seul, il affrontera le regard de Chronos. Seul, il se fera un accès à l'autre monde. Seul, il bâtira l'empire du crime, la maison de la création. Il sera à son tour le gardien de l'enclos dévasté. Il sera le passeur. La chose qui nous a frappé d'emblée à l'approche des textes de Lindalé, c'est l'épaisseur des référents. Sans cesse, la littérature y est au travail. Je veux dire, tous les écrivains de la littérature, comme si écrire, c'était convoquer sans cesse et chacune des fois la littérature tout entière. Et que mes deux figures particulières de la littérature l'ont hanté beaucoup, c'est la figure de l'écrivain russe et poète Marina Tsvetaeva et de l'écrivain Fernando Pessoa. Et ma première question, elle est celle-ci, d'essayer que vous nous parlez du rapport que vous entretenez depuis le commencement avec la littérature et du rapport particulier avec ces deux écrivains.
Je voulais d'abord vous remercier pour pour cette lecture. Ça me... je crois qu'il faut qu'on n'écrit pas sans reconnaître qu'on est redevable et sans s'acquitter d'une dette envers tous ceux qui ont été des guides, des mentors. Et qui ont prêché l'exemple. Je crois que l'un des plus beaux mots de la langue française, c'est hommage. Et, mais j'essaie toujours, quand j'écris, de ne pas songer aux influences et sans faire table rase, parce que ce serait un peu brûler mes vaisseaux. J'essaie de faire en sorte que ce dont j'ai pu m'imprégner forme plutôt comme un terreau pour qui favorise peut-être l'épanouissement d'une certaine langue, d'une certaine recherche. Et la lecture de Marina Tsvetaeva, notamment, m'a beaucoup... a été vraiment très féconde parce que elle qui était tellement qui était une très grande lectrice et qui a qui est aussi une critique très empathique, même à travers ses lettres, les lettres à Rilke ou les lettres à Pasternak, savait aussi se soustraire presque aux regards inquisiteurs de ses maîtres. Donc, elle a écrit une poésie et aussi des textes très qui étaient vraiment tendus vers une quête de non pas je crois qu'elle ne cherchait pas à être d'avant-garde, et c'était une de ses grandes qualités. Elle disait qu'elle n'était d'aucune avant-garde, mais qu'elle marchait toujours en avant. Et elle est allée véritablement au bout de son aventure, même en étant finalement en but aux difficultés et en cédant au bout du compte à la tentation du silence, parce que qu'un des aspects chez Tsvetaeva qui m'ont le plus bouleversée, c'est qu'elle s'est heurtée finalement à, non pas seulement aux difficultés matérielles quand elle est rentrée en Russie, mais elle s'est heurtée à une forme de défaitisme. Elle n'a plus eu foi à un moment en la littérature. Donc, et je crois que c'est ce qui a avant tout la poussée vers le suicide, et peut-être plus que les circonstances, les difficultés, le fait qu'elle était très désorientée aussi en rentrant en Russie.
Comment vous l'avez découverte? Parce que dans ce recueil dont je lisais un extrait, Le complexe de Caliban tout à l'heure, celui-ci dessine une espèce de trajectoire des lectures. Pas uniquement des lectures, parce que j'aimerais bien qu'on parle de cinéma aussi avec Lindalé, puisqu'elle est, tout à l'heure, on a parlé des contrebandiers de Moonfleet, donc un film de Fritz Lang, moi qui a bercé mon enfance, enfin qui est un film que je trouve tout à fait extraordinaire. Et dedans, elle parle de sa fascination d'emblée pour la question de l'imprimé. Et on a une. Bon. Texte qui me fait penser beaucoup à un texte de Bruno Schulz, pour lequel. Qui s'appelle Le Livre. C'est au-delà même de la littérature, l'entrée, effectivement. L'entrée dans la littérature commence avant même la littérature. La conscience de la littérature commence avec la fascination de la lettre, de l'écrit, de l'imprimé. Celui-ci serait-il indéchiffrable ? Et vous évoquez le premier livre, un des premiers livres comme ça dans votre trajectoire de lecteur, c'est Oui, oui. Vous êtes au Vietnam, et ce livre-là, Oui, oui, enfin, je veux dire, on a tous comme ça, je sais pas, premier livre, quelque chose qui peut paraître absurde, qui peut paraître, mais qui est peut-être la clanche.
Il y avait ces livres, il y avait aussi, je crois, il y avait au départ, je l'évoque un petit peu, la fascination aussi pour l'imprimer, mais même pour les journaux. Et à l'époque où je ne savais pas encore lire, et où j'étais encore entre deux langues, en fait, entre le vietnamien et je commençais à apprendre le français. Et je sentais que j'étais plus attirée par le français et que je commençais à me détourner du vietnamien aussi. Bon, les deux langues sont en alphabet latin, donc il n'y a pas de... je n'avais pas une sensation d'étrangeté, ce n'était pas des idéogrammes en vietnamien. Donc, par la suite, en réalité, un des livres qui a été décisif dans mon désir d'écrire un jour, c'est un livre que j'ai relu plus tard avec beaucoup plus de réserve et de distance, mais qui a 8-10 ans et était très très important pour moi, c'était un livre de Victor Hugo. Bon, c'est aussi parce que c'est le grand homme des lettres français pour quand on est à l'étranger. Mais il y avait dans son entreprise titanesque quelque chose de très fascinant pour moi. Donc, je me suis beaucoup éloignée de toute cette littérature, mais c'était un élément qui était vraiment un catalyseur de...
Ce livre de Hugo, c'est L'Homme qui rit.
Oui, Les Misérables d'abord et ensuite L'Homme qui rit. Oui. Les Misérables, j'ai eu beaucoup de réserves, mais plus tard. Mais L'Homme qui rit reste pour moi un livre qui a une sauvagerie et une étrangeté qu'on ne trouve pas dans les autres œuvres de Hugo.
Alors, L'Homme qui rit, on appelle ça les compachicos. Bon. L'Homme qui rit, c'est quelqu'un qui
c'est un enfant naturel d'un lord et il a été abandonné et pour qu'on ne puisse pas le reconnaître, on l'a défiguré. Il donne l'impression de sourire constamment et simplement il a été défiguré. Donc c'est un livre qui a inspiré jusqu'à James Ellroy pour le Dahlia noir, où le crime est en fait accompli par fascination pour ce qui a été commis dans le roman de Hugo. Et on trouve des références à ce livre un petit peu partout dans beaucoup de livres, chez Wells aussi.
Il y a une chose extrêmement... Enfin, votre œuvre est hantée par la... Disons, par la mort et la folie, entre et par une extrême cruauté. Les premières scènes qu'on lit, je pense à ce compachico, ça se tranchait les lèvres là comme ça pour sourire. Ou alors ces figures de défiguration qu'on rencontre à la sortie du cirque, enfin, ce lépreux ou cette femme défigurée, qui vont hanter comme ça, comme première image, enfin, je veux dire, assez violente, extrêmement violente. Je pense à la question du couteau, par exemple, qui revient extrêmement, enfin, chez vous très fortement. Dans le dernier texte, il y a la question du laguiole, où la personne dit, il y a un texte qui s'appelle Chris, ici, qui est le nom d'un couteau...
Javanais,
on le retrouve très souvent, enfin je sais pas, je n'ai pas tout en tête, mais il y a comme ça quelque chose comme une extrême violence de l'arme blanche. Enfin, la personne au début de In Memoriam, je restais parfois des heures entières à regarder un laguiole avec l'envie de me trancher la gorge, je serrais le couteau dans ma main et je fixais le reflet de mes yeux dans la lame, je ne m'aventurais plus hors de chez moi, etc. Et à un moment, il y a une phrase très belle, il dit, bien sûr, qu'il eut envie de poignarder la première passante venue, ce serait une jeune femme longiligne. Et cette jeune femme lui dirait, tue-moi si tu l'oses. Et pour moi, enfin, je digresse, pour moi, cette phrase a immédiatement résonné comme une phrase de Kafka. Phrase de Kafka qu'il a écrit à la fin, si vous ne me tuez pas, vous êtes des assassins.
En fait, la résonance pour moi, c'était plutôt Ingeborg Bachmann qui parlait du virus du crime. Elle disait qu'il fallait traquer le virus du crime et elle se demandait par où était passé ce virus du crime, parce que selon elle, dans ce monde-ci, on ne meurt pas, on est assassiné. Enfin, ça rejoint tout à fait ce que dit Kafka, mais toute l'œuvre de Bachmann aussi tourne autour de ces thèmes assez violents sur la culpabilité, le meurtre en sourdine. Et ce qui se passe derrière les beaux paravents. C'est un écrivain qui m'a, je dirais, plus qu'influencé. Je me suis un peu détachée de ses livres, mais à un moment, je me suis presque approprié son univers. C'était une amie de Paul Celan et de Nelly Zax. Donc, il y a c'est un peu la même famille de ce que Celan appelait justement des délogés. Elle était d'une certaine manière une exilée, pas seulement parce qu'elle a vécu à Rome, mais parce qu'elle s'est dressée de la même manière que Thomas Bernard contre son pays et contre une certaine hypocrisie ce qu'elle condamnait comme étant l'hypocrisie de la société autrichienne par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et, elle a beaucoup écrit sur le à quoi cela rime-t-il d'écrire la fameuse phrase « À quoi cela rime-t-il d'écrire après Auschwitz ?» À tel point qu'elle s'est tue pendant 10 ans et qu'elle a laissé beaucoup de textes inachevés. Elle était à un moment où elle n'arrivait plus à choisir entre la poésie et une certaine forme romanesque. Je dis une certaine forme romanesque parce que je ne pense pas que ces romans soient véritablement des romans. Ce sont la plupart du temps des portraits de femmes très émouvants, mais plein d'humour et très lucide. Et elle avait aussi, c'est ce qui séduisait beaucoup Thomas Bernhard quand il l'a lu et il l'a rencontré, c'était ses talents d'observatrice assez sarcastique. Et il l'a d'ailleurs célébré dans plusieurs de ses livres, enfin surtout dans Extinction.
Les deux grands romans de Bachmann, il s'appelle Franza et Malina.
Franza est inachevé.
Et Malina, et ces deux textes sont actuellement indisponibles en France. Enfin, une parenthèse du travail de certains éditeurs. Bachmann appartenait à un groupe, ce qu'on appelle en Allemagne 47. le groupe 47. Donc, où appartenait un grand écrivain, un autre, je me permets de rajouter un écrivain qui s'appelle Uwe Johnson. Qui appartenait au groupe 47, qui est une autre grande figure de la littérature, qui est mort aussi prématurément, et dont l'œuvre est aussi absolument, quasiment indisponible en France actuellement, qui avait été publiée chez Gallimard. Et Uwe Johnson a écrit un texte sur Bachmann magnifique, qui s'appelle Une visite à Klagenfurt, parce que non seulement Bachmann avait, comme Bernhard, pris sa distance à l'égard de l'Autriche, enfin, plus que pris sa distance à l'égard de l'Autriche, Bernhard y revenait alors que Bachmann s'est exilé à Rome et que, contre ses propres volontés, on l'a enterré à Klagenfurt. Et Klagenfurt est une ville d'Autriche dans laquelle Adolf Hitler a fait une visite et on a enterré dans cette ville qu'elle a haïssée par-dessus tout. Est-ce que je peux dire ça comme ça ?
Oui. Hein ?
Donc, Uwe Johnson, dans un très beau récit, va voir la tombe de Bachmann là-bas et raconte l'ignominie de cette ville.
Je crois même qu'on a créé à Klagenfurt un prix Bachmann qui est au grand désarroi de sa famille. Et si je me souviens bien, Elfriede Jelinek, qui se réclame beaucoup de Bachmann, avait beaucoup protesté contre.
Vous avez parlé tout à l'heure de vous employez un mot, appropriation. C'est le mot. Qu'est-ce que c'est que pour un écrivain s'approprier comment un écrivain s'approprie, c'est-à-dire comment il les digère, comment tout ça sédimente et comment ça passe dans l'écriture sans effectivement, vous parliez tout à l'heure, sans mimer finalement, sans. Comment ça travaille dans les soubassements, dans les fondations de l'écriture ?
Mais je crois que l'écueil, c'est vrai, c'est de se faire l'épigone des livres, des auteurs qu'on a aimés. Mais en tout cas, pour moi, sans doute les grands livres ont cette vertu de m'emmener vers d'autres. Vers d'autres rivages, vers d'autres contrées, mais de ne pas. Quand je disais que je m'appropriais son univers, c'est que c'est vrai que j'en étais hantée, mais pas au point de vouloir le restituer tel quel et de faire. Et de céder au mimétisme. Je crois que j'ai toujours réussi à me détacher des livres qui ont été importants tout au long du parcours, en cessant de les lire par moments, en les tenant à distance, en essayant de les comprendre de l'intérieur, plutôt en cherchant comment a germé telle idée, comment l'entreprise a été menée, quel est le choix des mots, le choix des. En somme, j'ai essayé toujours plutôt de me placer de m'interroger sur ce qui a pu provoquer le désir d'écriture. Plus que... Et puis aussi en m'interrogeant sur le destin de la manière dont tel auteur, tel écrivain voit la littérature, quelle est sa vision, quelle est son exigence. D'une certaine manière, ils m'ont plus servi comme modèle plutôt de vie. Même s'il y a des exemples de livres qui ont été écrits en s'inspirant d'autres livres, mais je ne crois pas avoir jamais été tentée de réécrire tel ou tel livre en m'inspirant de la trame.
Ça j'entends, et c'est absolument vrai, et en même temps, je pense par exemple, je pense à certaines figures des grandes, enfin dans les grandes tragédies grecques, je pense, pour votre dernier livre, j'ai pensé beaucoup à, enfin vous le dites vous-même, j'ai pensé beaucoup à Antigone, par exemple, et c'est vrai qu'il y a quand même, vous êtes hanté souvent par les grandes figures tragiques de la littérature, que ce soit les figures de l'écrivain lui-même, ou les figures des textes eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, par exemple, vous êtes à la fois, par exemple, vous parlez de Barman, vous êtes à la fois fasciné par Barman, mais aussi par les figures qu'elle convoque et qu'elle invente.
Les grandes figures de la tragédie grecque, oui, parce que... Antigone, parce que c'est une figure très ambiguë, qui n'est pas seulement, comme on peut l'imaginer, dans le refus et la révolte, mais qui est une figure qui justement cherche à rendre hommage, à refuser. Si elle refuse quelque chose, c'est la mort. Et peut-être d'une certaine manière, ce qui est une véritable obsession, c'est que ce soit chez Barman, chez Svetayeva, ou même, j'ai oublié de répondre à votre question tout à l'heure, ou même chez Pessoa, et dans la figure d'Antigone ou d'Électre, c'est le refus que des choses disparaissent. Cette manière de se projeter constamment dehors de soi, de se transporter toujours hors de soi, pour sauver quelque chose. Svitayeva a constamment rendu hommage à des poètes, même ceux qui n'étaient pas en odeur de sainteté, comme Mayakovsky, je veux dire en Occident. Elles ont toutes contesté en fait le verdict, quel qu'il soit. Et si je suis hantée par quelque chose, c'est ça, c'est cette espèce, la manière d'élever cette protestation, d'élever une contestation contre le verdict ultime.
D'où le titre de votre dernier livre, In Memoriam.
Oui. Pas seulement pour ressusciter, ressusciter une absente, une personne qui a choisi de disparaître. Le narrateur dit à un moment à propos de cela qu'elle essaie de sauver du naufrage en emmenant dans sa barque des vies qui autrement disparaîtraient si elle ne les sauvait pas par la littérature. Et,
Cela, le personnage de In Memoriam, pourrait croire, pourquoi donc la littérature aurait cette puissance de faire que quelque chose puisse être encore sauvé?
Il me semble qu'on n'écrit pas sans du moins essayer de se leurrer sur un certain pouvoir démiurgique de la littérature. Autrement, je crois qu'on déposerait les armes avant de tenter quoi que ce soit. Il y a de la présomption, certainement, mais mais c'est aussi placer assez haut la littérature pour croire qu'elle peut quelque chose. Qui ne serait pas du pur divertissement. Donc,
Tout à l'heure, la première phrase de l'ouvrage, donc on reste en fait au commencement même du livre. Nous n'avancerons que très peu, mais je serais devenu fou si je n'avais pas écrit ce livre. La folie me guettait cependant, à peine l'avais-je terminé que je le brûlais. Ce que je voulais dire tout à l'heure dans ce que j'ai pu dire dans mon introduction sur effectivement cette forme à la fois de puissance, dont on parlait, de prétention à la puissance d'avoir à sauver quelque chose. Est-ce que non, c'est pas non, ça, la grandeur même de la littérature, ce ne serait pas inversement son impuissance, finalement. C'est-à-dire le fait, finalement, qu'elle puisse sauver quelque chose parce qu'elle ne sauve rien. Dans une espèce d'aporie absolue, c'est-à-dire qu'effectivement, quelque chose qui... Je voulais dire que la mort est en même temps sa puissance de vitalité, sa destruction, sa puissance d'affirmation.
Desforêts le dit très bien. Dans le poème de Samuel Wood, où il dit en substance, ces mots dont on use et abuse sans cesse, les a-t-on jamais vus agiter une feuille ou animer un nuage ? Et c'est vrai que c'est un constat terrible et de l'impuissance des mots, mais il écrit cela et toute son œuvre apporte un démenti de ce qu'il avance. C'est une des richesses, je crois, de l'œuvre de Desforêts, et c'est aussi peut-être aussi une des richesses quand on part en quête d'une certaine littérature, c'est qu'on est toujours assailli par le doute et qu'on est très sceptique sur ce que peut là encore c'est Desforêts qui le dit, la vieille arme ébréchée du langage, mais néanmoins on croit possible, sinon d'avoir un quelconque effet, peut-être sur le lecteur, peut-être de semer une petite discorde, d'introduire une discordance dans le monde qui fait que le monde ne va pas comme il devrait aller et que tout, si on arrive à faire glisser un petit peu le regard vers autre chose.
Il y aurait une certaine forme d'insurrection permanente de la littérature. Vous dites au commencement qu'effectivement que vous écriviez parce que vous étiez du côté des vaincus, pour reprendre un mot de Benjamin, enfin, je veux dire être du côté des vaincus, pour être du côté des réprouvés, pour être écouté du côté des... Vous avez employé un mot que disait Barman tout à l'heure, j'ai oublié, des délogés. Et que, je veux dire, évidemment, me vient cette phrase si une fois citée, mais si importante, de Kafka, donc, littérature, écrire serait faire un bond hors du rang des meurtriers.
Il me semble que c'est quand même une des nécessités, une des conditions premières. Parce que, en fait, tout livre, en fait, du moins tel que j'aspire à l'écrire, peut-être éveiller une certaine, on revient à Pessoa, éveiller une certaine inquiétude ou d'intranquillité. Et c'est un peu sonner le tocsin, en fait, pour moi. Réveiller soi-même et le lecteur d'une certaine torpeur. Soi-même, évidemment, en l'écrivant, et je pense l'avoir toujours essayé de tendre vers cela. Depuis son retour de Rome, ceux-là avaient des migraines terrébrantes et des insomnies prolongées. Le moindre bruit se répercutait dans sa tête, l'obligeant à se calfeutrer. Son corps était parcouru de tremblements. Elle avait des nausées dès qu'elle grignotait même un biscuit. Les cachets qu'elle avalait pour dormir étaient inefficaces et ne faisaient que la plonger dans un engourdissement où toute activité qui requérait de la concentration lui semblait un pic à gravir. Elle n'écrivait plus. La redoutable manieuse de mots avait déposé les armes. Certaines nuits, elle se blottissait contre moi. Tout l'horrifiait. Elle sentait en elle une présence qui menait une sarabande de tous les diables. Elle regimbait, mais la saboteuse avait toujours raison d'elle. Elle se demandait ce que ses livres avaient apporté au monde, puisqu'ils ne donnaient pas à leur auteur la certitude d'accomplir une tâche qui avait du sens. Je n'ignorais pas que cela lui pesait d'ouvrir son cœur dans ces moments-là. Dès l'adolescence, elle ne s'en était remise qu'à la littérature pour la sortir du guépier. Sa chair, son sang, étaient faits de la matière même de ses livres. Même si ses conversations me tourneboulaient, je pensais que, tant qu'elle se confiait, j'étais susceptible de mesurer les variations sismiques et de prévenir la catastrophe. Mais le plus souvent, elle nous consignait sa porte à Thomas et à moi. Mon frère venait d'avancer un pion. C'était la première fois qu'il précisait ses conditions, et connaissant cela, je n'avais aucun doute qu'il s'était fourvoyé. Il avait exprimé le désir d'avoir un enfant d'elle. Elle avait répondu non, calmement. À croire que ce non tranché était constitutif de son être. Non, 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 avait-elle répété à Thomas, médusée devant une telle détermination. Elle n'ajouta aucune explication et se mura dans le silence. Il devait me dire, après la mort de Sola, qu'il avait eu l'impression d'avoir touché un nerf sensible. Il formulait une exigence qui la renvoyait à son passé. Il n'exerça pas de chantage, ne la chapitra même pas pour lui avoir dénié le droit d'être, comme il le martelait, l'homme qui la rendrait à cette féminité qu'elle refusait. Il ne revint plus sur ce sujet épineux, mais la pomme de discorde avait jeté un froid. Il considérait qu'elle ne l'aimait pas au point de balayer ses réticences. Elle se désolait à l'idée qu'il tenait seulement à la voir mère et ne se préoccupait pas de savoir si elle avait encore une étincelle créatrice. Un jour de décembre, alors que j'étais à la maison d'édition, je reçus un coup de fil de Thomas. Il avait à me parler. Sidéré d'avoir affaire à lui, je mis quelques minutes avant d'acquiescer. Je lui indiquai un café non loin de mon bureau où nous pourrions nous retrouver. Je n'y allais pas sans me poser 1000 questions pour finalement déduire que s'il avait eu l'initiative de me téléphoner, c'était pour m'enjoindre de couper tout lien avec cela, que j'aurais, selon lui, encouragé dans sa décision de ne pas avoir d'enfant. Il arriva en retard, l'air très agité, et m'apprit que l'avant-veille, il avait découvert cela dans un état catatonique. Prostrée, assise au bord de son lit, elle n'ouvrait pas la bouche. Elle devait l'appeler ce matin-là. Il lui avait proposé de l'accompagner à une exposition. Il avait attendu toute la journée, puis, saisi d'un pressentiment, s'était rendu à son appartement. Sa porte était entrouverte, la clé était dans la serrure, comme si elle venait de rentrer et n'avait pas eu la force de refermer derrière elle. Quand il s'avança dans la pièce, elle n'eut pas un geste. Elle demeurait immobile, les bras ballants, à fixer un point dans l'espace. Il lui demanda pourquoi elle ne lui avait pas téléphoné. Elle n'eut pas l'air d'avoir entendu. Il la secoua. Elle paraissait inerte. Il y avait, à ses pieds, sur un plateau, un tas de cendres. Elle avait brûlé des fragments de manuscrits, ou peut-être des lettres, celles de Thomas ou les miennes. Le parquet était jonché de photos d'elle déchirées. Les livres de sa bibliothèque gisaient sur le sol, quelques-uns en lambeaux. Il vida les cendres, remit les volumes sur les rayonnages. Bien sûr, il ne servait à rien de redonner à l'appartement un semblant d'ordre. Il aurait mieux valu qu'il serra cela dans ses bras, la réveilla de sa torpeur, mais il s'activait pour réfléchir à ce qu'il convenait de faire. Les yeux caves, le teint blafard, elle ressemblait à un animal pantelant qui n'avait plus qu'un souffle de vie. Il s'agenouilla devant elle, lui caressa les cheveux, lui murmura qu'il était là, elle ne scia pas. La forcer au repos était encore, pour l'instant, la meilleure méthode curative. Il défit le lit, l'y allongea et s'assit par terre à son chevet. Il la veilla toute la nuit. Étendue entre les draps, Elle ne fermait pas les paupières et n'avait aucune réaction quand il lui caressait la joue. Le lendemain, il lui prépara un repas. Elle ne toucha pas à l'assiette. Il découpa la viande et la porta à sa bouche. Elle mâcha quelques morceaux qu'elle recracha ensuite. Il l'aborda, mais elle ne dormit pas. Toute la nuit, elle garda les yeux rivés au plafond. Il prévoyait le pire s'il s'absentait trop longtemps. Il fallait que nous allions tous deux chez elle. Je le suivis immédiatement. Elle ne tourna pas la tête quand je franchis le seuil de sa tanière. Assise dans un fauteuil, là où mon frère l'avait installée le matin, elle avait les bras sur les accoudoirs. Je m'accroupis face à elle et lui pris la main. Elle ne la retira pas, mais aussitôt après, elle leva l'autre main et se cacha les yeux. Je l'appelai tout bas, « Cela, cela ». Elle restait de marbre. J'eus l'idée que si je lui lisais quelques pages d'un de ses livres préférés, je réussirais à briser cette cage de verre dans laquelle elle s'était enfermée. Thomas était parti au tribunal régler un litige. Je lus pendant 2 heures. J'avais la gorge nouée. De temps en temps, je m'arrêtais et la regardais. Elle était aussi figée qu'une statue. Je rangeais l'ouvrage à sa place. Ce à quoi je m'employais était au mieux un coup d'épée dans l'eau, au pire déplacé, car si elle avait une lueur de raison, d'entendre les mots d'un autre ne manquerait pas de la démoraliser. Ces derniers mois, elle n'avait pas écrit une seule ligne. Mais je finis par comprendre qu'elle ne se rendait compte de rien. Le frisson qui soulevait ses épaules était le seul signe qu'elle était encore de ce monde.
C'était une rencontre à la librairie Le Livre à Tours. Avec Linda Lay qui publie chez Christian Bourgois In Memoriam. Musique, Martin Fedman. Une émission d'À bout de souffle. Sur internet, audioblog.arteradio.com/à-bout-de-souffle.